Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, émission Sport et Foi, vous allez retrouver Arnaud Boutéon. Arnaud Boutéon, bonjour.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Maria. C'est Arnaud Boutéon, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau rendez-vous. Sport et Foi, je vous propose de réfléchir et de méditer ensemble pendant ces petits instants sur la question de l'ascèse et du combat spirituel. Vous savez, on parle beaucoup des athlètes, et quand on repense à l'étymologie du mot athlète, il y a la source du mot athlète vient de l'ascèse. Et il m'arrive souvent de rencontrer des jeunes dans des aumôneries, et puis je leur demande comme ça, mais à qui vous voudriez aujourd'hui vous identifier, quels sont pour vous vos héros contemporains? Et ils me parlent souvent des sportifs de haut niveau, ils me parlent de Neymar, de Mbappé, de Messi, et je leur réponds, mais vous savez, pour arriver là, ces grands champions, depuis leur plus jeune âge, ont posé des actes de renoncement, ont fait des efforts pour atteindre aussi le bonheur de marquer des buts. Ils se sont entraînés, il y a eu des moments de privation, ils n'ont pas eu la jeunesse des jeunes de leur âge, ils ont peut-être moins fait la fête, alors parfois ils se rattrapent, mais en tout cas ils ont accepté de dire non. Et il me semble que le sens de l'ascèse pour tous les athlètes du Christ que nous sommes appelés à être est d'avoir dans la joie, c'est la joie du dépouillement, mais d'avoir cette force, cette capacité à renoncer à certaines choses, à certaines tentations pour choisir un bien supérieur. Et on le retrouve dans la vie sportive et on le retrouve également dans la vie chrétienne à travers ces périodes, en particulier la période du carême qui consiste à essayer de se vider de plein de petites idolâtries pour laisser une plus grande place au Seigneur de notre vie, se vider pour se laisser remplir du Christ. Et avant de commencer, j'aurais voulu vous amener sur la piste du stade avec saint Paul. Vous savez, dans sa première épître aux Corinthiens, il interpelle son auditoire en évoquant, en faisant écho aux Jeux ismiques, qui étaient un peu comme des Jeux olympiques. Il y avait les grands Jeux olympiques à Olympe, et les Jeux ismiques, c'était dans une autre région, mais c'était exactement la même mécanique. Des rassemblements comme ça de sportifs, et saint Paul emploie la métaphore sportive qui nous parle beaucoup. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il convoque une réalité temporelle qui était celle du sport, qui était une réalité visiblement déjà assez populaire. Et il interpelle comme ça dans sa première épître au chapitre 25, « Vous savez bien que dans le stade, tous les coureurs participent à la course. » Donc il y a comme un appel universel des coureurs. « Mais un seul reçoit les prix. » Alors vous courez de manière à l'emporter. C'est cette finalité de but que nous devons poursuivre. Tous les athlètes à l'entraînement s'imposent une discipline sévère. Ils le font pour recevoir une couronne de laurier qui va se faner. Mais nous, nous luttons, nous courons pour une couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. Mais je traite durement mon corps. J'en fais mon esclave pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. C'est très intéressant parce que donc il fait cette analogie avec ces athlètes à l'entraînement. L'entraînement, c'est quoi? C'est cet espace un peu de retrait du monde qui n'est pas l'espace de la compétition, qui n'est pas l'espace de l'oisiveté, mais qui est un espace d'effort, de discipline, qui a une finalité, c'est de préparer la compétition. Yannick Noah, que vous connaissez, avant d'être chanteur, il a été grand champion de tennis, il disait « les grandes compétitions sportives se remportent à l'entraînement ». Et très souvent, dans nos clubs de sport, même nous, quand on s'entraîne, on le fait un peu de façon parfois dilettante, une forme de détachement, de légèreté, alors que le vrai entraînement vraiment de sportif, assez pro, et ça consiste à s'entraîner dans les mêmes compétitions dans les mêmes conditions que la compétition. L'entraînement dans un chrétien dans le monde, je le vois vraiment comme ces moments de retrait que nous offrent les espaces de prière où on, on plonge avec une intensité dans une rencontre avec le Christ, on plonge avec intensité dans le refuge de toutes nos distractions, de toutes nos sollicitations, pour commencer à préparer la compétition de nos vies. Et nos compétitions, c'est quoi? Ça va être notre rencontre avec notre prochain. Et dans le retrait de l'entraînement, eh bien, je peux commencer à visualiser tous les gestes que je vais poser pendant ma journée vis-à-vis de mon collègue de travail, vis-à-vis de mon voisin, vis-à-vis de mon conjoint. Et peut-être que la période de familiale, avant d'aller au boulot, ou bien avant un événement qui peut être un événement associatif, etc., en commençant à parler avec l'autre, à rentrer en communion avec l'autre et à lui parler de mes soucis, de mes difficultés, de mes enjeux, c'est aussi une période d'entraînement pour se préparer avec l'aide de l'autre, en exprimant ses besoins, à ce que j'appelle la compétition de nos vies, qui va être tous ces moments de rencontre et de communion avec l'autre. Pour revenir sur le texte de saint Paul, il parle bien de cette couronne de laurier qui se fane. Donc une couronne de laurier qui va se faner, finalement, c'est que toutes nos petites idolâtries de ce monde, toutes nos petites joies qui sont des joies authentiques, hein. C'est toute la différence entre la joie et le plaisir, hein. Le plaisir va être fugace, la joie va être plus profonde, mais il y a quand même des petites joies. Je me souviens que quand j'étais jeune, je rêvais d'une montre et un peu toutes mes espérances étaient focalisées sur l'obtention de cette montre. Et le jour où j'ai eu ma montre, et bien à partir du moment où j'avais reçu ce bien, je réalisais que mon cœur n'était pas complètement plein. Ma satisfaction n'était pas première. Il y avait, voilà, j'étais content de ma petite acquisition, de mon petit cadeau, mais je cherchais autre chose pour remplir l'espace infini de mon cœur. Et les couronnes de laurier, on va courir après, c'est des petites gloires professionnelles, c'est des reconnaissances associatives. Quand on s'engage dans l'église, ben on a envie d'avoir un petit mot de remerciement du curé. Quand on rend un service à quelqu'un, on a besoin d'avoir un peu de reconnaissance. Quand on participe à une émission de radio, on a envie qu'on nous dise « Oh, votre émission, elle était pas mal ». Mais fondamentalement, ces couronnes de laurier, on sait qu'elles se fanent parce que notre cœur est immense, il a un besoin beaucoup plus profond de joie et de consolation. Et saint Paul nous dit « Cette couronne à laquelle notre vie va être finalisée, c'est une couronne qui ne se fane pas, c'est une couronne impérissable ». Et ensuite, il l'interpelle avec vachement de zèle, avec beaucoup de dynamisme, en disant « Moi, je cours, ce n'est pas sans fixer le but. Si je fais de la lutte, ce n'est pas en frappant dans le vide. » D'où l'importance de ne pas nous laisser aussi étourdir par ces idolâtries. On ne frappe pas dans le vide, on frappe un objet. Vous savez, j'étais dans un monastère récemment dans le sud-ouest, au ministère de la Grâce, et les moines m'expliquaient avec une certaine malice, avec beaucoup de joie, qu'ils avaient installé une salle de sport et que parfois, après des réunions, après des rencontres qui peuvent être épuisantes, ils avaient pu mesurer le besoin des jeunes frères, c'était des frères proches de la spiritualité de saint Augustin, des chanoines, et ils avaient besoin de pouvoir un peu se défouler et de taper, et donc ils tapent pas dans le vide, mais ils avaient installé un sac de frappe. Et on a besoin comme ça de finaliser une énergie, et quand on court, c'est pas sans fixer le but, nous dit saint Paul, donc on a toujours une finalité. Moi, quand je cours parfois, c'est vrai que dans un parc, on a l'impression parfois de voir les athlètes en cage, et il est beaucoup plus quelque part pertinent de courir vers un vrai but plutôt que de tourner en rond. Et en tout cas, l'objectif, mon objectif, ça va être de faire mes 5 tours, mes 10 tours. Ça va être parfois, on a des montres connectées, vous voyez, donc on a le nombre de calories qu'on peut perdre. Mais c'est très intéressant, à mon avis, de se dire je cherche quelque chose. Toute mon énergie vitale, je la finalise pour un bien supérieur, pour un bien qui me dépasse, tout en sachant que cet objectif, c'est pas une petite gloriole personnelle. La couronne impérissable, ça veut dire qu'il y a un moment où on lâche prise. On lâche prise, on se dit, voilà, Seigneur, je t'offre ça, je t'offre cet effort, mais c'est toi qui prends ce cadeau, et c'est toi finalement la seule mesure de tout. Sinon, il y a le risque que nos efforts soient des petites glorioles et qui fasse lever à notre cœur de l'orgueil. Et saint Paul termine dans le verset 27, « Quand je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave, pour éviter qu'après avoir proclamé l'évangile à d'autres, je sois moi-même disqualifié. » Donc c'est toute la question à travers ça, je vois la question de la cohérence, c'est-à-dire que c'est bien de le donner des bonnes leçons de morale, des belles exhortations à la radio, dans les médias, à travers nos relations, mais de se dire que fondamentalement, il s'agit réellement de faire ce que l'on dit, d'avoir des conseils bienveillants vis-à-vis de nos frères, tout en sachant que le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Et c'est là qu'on passe d'une économie un peu du monde, avec les indicateurs du monde, vers une économie de la grâce, de la communion et de la relation, sachant que les vrais fruits ne sont pas réellement mesurés sur terre. Dans toutes nos actions terrestres, dans nos engagements de paroisse, dans nos engagements communautaires, je me méfie toujours un peu de la volumétrie. Sur les réseaux sociaux, le nombre de followers, le nombre de retweets, l'audience. C'est intéressant d'avoir des objectifs, mais en sachant que si on cherche le volume, si on cherche le bruit, si on cherche une forme d'attraction visible, il y a toujours le risque que le moyen, qui est ces indicateurs d'audience, de performance, deviennent une finalité et donc deviennent une idole. Quand il dit « je traite durement mon corps, j'en fais mon esclave », c'est-à-dire que mon corps va être le lieu dans lequel j'ai mes sens humains. Et aujourd'hui, la plupart de nos sens, qui vont être du tangible, du mesurable, du volume, du goût, on voit à quel point cette mesure de performance, en quelque sorte, peut devenir une mesure d'idolâtrie. Et le corps, qui est notre enveloppe, qui nous protège du monde et qui est aussi le lieu de notre rencontre avec l'autre, le lieu de notre rencontre avec notre prochain, avec le monde, un capteur en quelque sorte, il y a toujours le risque que ce corps soit une idole, alors qu'il n'est qu'une médiation pour quelque chose de beaucoup plus puissant qui va être de l'ordre de l'esprit, de l'âme, et nous permettre de rentrer en relation avec l'autre, avec le Seigneur et avec l'autre. D'où vraiment l'importance de toujours avoir cette juste distance par rapport à notre corps, en particulier dans les exercices d'ascèse. Aujourd'hui, la période que l'on traverse est une période vraiment compliquée, où on voit que tout le monde souffre. Tout le monde souffre. Tout le monde a des raisons de souffrir et il est important de l'entendre, de le dire, de le verbaliser, de le confier au Seigneur. On voit une amplification finalement de pas mal de tendances qui traversent le monde et une accélération de toutes ces tendances, de toutes ces tentations. C'est comme si, vous voyez, dans notre tension entre le vice et la vertu, eh bien, la présence du vice était plus proche de nous et son audience était encore plus forte. Ça veut dire que dans ce combat spirituel qui est au cœur de nos vies et qui se gagne avant tout dans le silence et dans le retrait, il faut réellement que ce vice et ces tentations soient écrasées en quelque sorte par les vertus. Il ne s'agit pas de rendre ce vice présent de façon obsessionnelle, parce que du coup il va écraser la vertu, mais d'être conscient en tout cas de toutes ces structures de péché, comme disait Saint Jean-Paul II. Et puis surtout, c'est vraiment un conseil de faire en sorte que les éléments de vertu soient beaucoup plus forts que la grandeur du Seigneur, que l'esprit de louange, que la générosité, que le don de soi, que la joie, que l'abandon, finalement, soient beaucoup plus forts dans nos vies que le repli sur soi, que la crainte, que l'angoisse, que la colère, que la critique. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'important et c'est une disposition de cœur et d'esprit. Et dans cette période qu'on subit, hein, qu'on subit tous, on voit ce mouvement un peu de rétractation. Un ami orthodoxe me disait, il y a une tension entre les mouvements centrifuges, qui sont des mouvements de sortie de nous-mêmes, des mouvements de rayonnement pour aller vers l'extérieur, et ces mouvements centripètes, qui sont des mouvements de rétractation un peu nerveuse sur nous-mêmes et souvent sur notre corps. D'où l'importance de, vous voyez, de respirer. Le cœur, hein, dans son mouvement, a un mouvement de diastole et de systole, mais que les mouvements d'expiration, les mouvements d'accueil de l'autre, des mouvements de dilatation soient plus forts que ces mouvements de rétractation. On est aujourd'hui comme dans une machine à laver, et avec l'amplification, l'accélération, et il ne faudrait pas que le corps prenne une place matérielle, alors que ce corps est un magnifique esclave. C'est un peu comme l'argent, vous voyez, Françoise Sagan disait l'argent doit être un bon esclave et un mauvais maître. Il faut que ce corps, qui est un composant fondamental de l'unité de notre personne, on est corps, âme, esprit, mais que ce corps ne devienne pas une idole et un maître. D'où tout ce travail de l'ascèse qui nécessite de nous convoquer dans l'unité de notre personne et en particulier de convoquer notre volonté. Notre volonté pour renoncer, pour dire non à plein de petites choses qui vont nous entraîner vers une perte de temps ou bien vers des chemins idolâtres. Et c'est important d'avoir en quelque sorte ce radar, ce petit guide sur tout ce qui est toutes ces structures de péché qui sont autour de nous. J'aime bien prendre il y a des structures de péché, des structures de grâce. J'aime bien prendre la métaphore du jockey. Vous voyez, le jockey dans une course sur son pur sang, il va connaître son pur sang, il va connaître sa monture et il va connaître les qualités de sa monture, les défauts aussi. Quand on est dans un hôtel seul en déplacement, par exemple, on sait qu'on peut perdre du temps sur son téléphone portable à commencer à regarder des bons flux d'informations pour terminer vers des informations ou des images ou des médias qui vont nous conduire vers du vice et vers derrière, donc vers le péché. Et donc de se connaître et puis de chercher le bon terrain. Le jockey sur sa monture va chercher le terrain léger pour qu'il puisse donner le meilleur de lui-même, qu'il puisse déployer tout son talent et toutes ses vertus. Et je crois que c'est très intéressant d'avoir ça en tête. Trouver le terrain qu'il me faut pour me déployer. Et ça suppose de savoir dire non, de donner un coup de rein pour aller refuser le terrain le plus embourbé, pour trouver le meilleur terrain, pour que mon talent se déploie. Voilà, il y a des athlètes qui vont chercher la corde et qui vont pas chercher les embouteillages des pelotons dans les courses. Et j'aurais voulu partager avec vous une chanson, moi, qui me donne la pêche. C'est la chanson de France Gall qui s'appelle Résiste, prouve que tu existes. Et dans ces moments un peu de sursollicitation, eh bien, parfois on lâche prise. Alors on peut tomber, hein, mais vous savez, le saint, c'est celui qui se relève plus vite que les autres. Et France Gall, dans sa chanson, elle parle de ce monde, ce refus de ce monde égoïste. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces actes, ces micro-actes un peu de résistance par rapport à toutes nos sollicitations, eh bien, on est là pour retrouver notre vrai chemin, notre vraie identité. Saint Jean-Paul II disait à l'homme, deviens ce que tu es. Et voilà, et je vous invite à écouter cet appel. Aux auditeurs de Radio Maria, vous êtes les résistants face au péché. Ce combat intérieur, c'est ce combat qui est au cœur de nous. Dans l'Évangile, on nous dit bien que le péché et le mal, c'est ce qui sort de nous. Ensuite, tout se joue dans notre cœur, d'où l'appel vers le Seigneur. Ensuite, il y a des structures de péché qui sont autour de nous et on voit que quand on y plonge, finalement, on risque d'y tomber, on risque que notre volonté, que nos petites résistances intérieures peuvent s'écraser et là, on plonge du côté du vice. Mais ce monde extérieur, en quelque sorte, vous voyez, Il ne faut pas rentrer dans une forme de paranoïa victimaire et nous devons apprendre, et ça c'est quelque chose d'important dans notre temps, à aimer ce monde, même si la grammaire de ce monde, même si les règles de ce monde, même si tout l'esprit hein, qui habite parfois notre contemporain, nos contemporains nous semblent, nous sommes très éloignés de ce à quoi nous croyons. Je crois que nous devons aimer ce monde parce que nous devons aimer notre prochain. Un jour, le poète Charles Péguy, face à des bons chrétiens, à des pieux chrétiens, un peu pharisiens, bien comme nous, disait « Le Christ est venu sauver ». Ce sont des et il disait « Eux, ils pleurent, nichent, eux, ils ratiocinent, eux, ils se plaignent, eux, ils gémissent ». Le Christ est venu dans le monde, et il est venu sauver le monde. Il interpellait un peu les bons chrétiens comme nous, bien vertueux, bien dégoulinants de vertu, en disant honteux médecins qui insultent les malades. Vous voyez, le monde est en feu et finalement, on sait qu'il est en feu et il crie de désespoir, il crie de solitude, et la crise du Covid nous le montre. Et parfois, la tentation des chrétiens qui ont énormément reçu, ce serait de rajouter du kérosène ou de l'essence sur ce brasier pour accélérer les fractures, pour montrer que ce monde est totalement perdu, alors que nous sommes des pompiers. Nous sommes des pompiers qui avons... Comme mission d'apaiser ce monde, de recréer du lien là où il n'y a plus de lien. Et ça, ce n'est pas avec nos petits moyens, notre petite volonté que nous pouvons faire, mais grâce à l'aide du Seigneur. Et pour revenir à ce sujet de la 16, vous voyez, c'est tout se passe au cœur de nos vies. Et le vrai combat de la 16, il se décide... notre vie, ça va être notre relation à l'autre, ça va être à travers tout notre travail, à travers toutes ces occasions un peu de péché, mais notre préparation et la vraie réussite de la 16, elle va se faire dans la solitude du retrait et dans le silence de la prière. Et c'est là qu'on va acquérir un espace de liberté intérieure, parce que nous savons que nous sommes reliés à notre Créateur, reliés au Seigneur, et que lui seul peut nous donner la force et la joie pour résister et pour combattre. Et c'est dans cet espace, de ce camp secret d'entraînement qui est le sanctuaire de notre cœur, que nous pourrons non seulement résister, mais aussi combattre et donc diffuser le bien, la charité et le bonheur. Face à cette idolâtrie et à cette complaisance un peu dans le péché, dans le mal, il me semble que nous chrétiens, comme athlètes du Christ, est conscient de tout ce diable qui rôde autour de nous. Il faut qu'on l'écrase par notre joie, par notre liberté et notre rayonnement. Et ça va être tout ce petit combat, ces micro-combats qu'on aura à vivre. Et une chose importante aussi dans cette vie d'assaise, il me semble, c'est de penser aux joueurs de tennis qui, lorsqu'ils font un coup gagnant, s'auto-félicite, se congratule. Vous voyez, il serre le poing en disant « j'ai été bon Seigneur ». Quand ils sont pas au niveau, on les voit pester et écumer de rage et pousser un cri de colère. Et peut-être que par rapport à notre vie de foi et à tous les gestes que nous posons, il peut être intéressant de se dire « Seigneur, j'ai résisté à la tentation, gloire à toi, merci, je suis une magnifique personne, je suis fort, gloire à toi, j'ai résisté, aujourd'hui je ne suis pas tombé, je n'ai pas dit du mal de mon prochain ». Et la vraie ascèse, ça va passer aussi par des actes de louange et des gestes de tendresse vis-à-vis de soi. Il y a des choses très belles dans ce monde, on évoque la crise du Covid, mais on a des surprises incroyables dans ce championnat de notre vie avec un entraîneur génial qui s'appelle le pape François et qui nous donne à lire une petite lettre qui s'appelle Patrice Cordet sur Saint Joseph. Et ça, c'est vraiment la surprise pour l'année à venir et pour les temps que nous traversons. Et Saint Joseph, c'était pas un grand bavard, Et peut-être qu'aujourd'hui, on passe beaucoup trop de temps à s'abreuver d'informations un peu crispantes sur les réseaux sociaux, et puis finalement à beaucoup commenter. On commence par des commentaires, de l'analyse, et puis à la fin, c'est vraiment souvent des paroles extrêmement anxiogènes, non seulement pour nous-mêmes, mais pour notre entourage. Et Saint-Joseph, il n'a pas dit grand-chose, alors que le gars, il s'est quand même pris plusieurs tsunamis sur la tête. Il a offert ça, il a fait un fiat intérieur. Et puis il a posé des gestes, et en particulier des gestes de tendresse vis-à-vis de la Vierge Marie, dont il ne comprenait pas grand-chose, évidemment, de la grossesse surnaturelle. Et puis, pendant toute la vie cachée de Nazareth, des gestes de tendresse vis-à-vis du Seigneur Jésus, vis-à-vis du Christ. Et ces gestes de tendresse, on voit bien, ce sont des gestes de patience, des gestes d'encouragement, des gestes d'apprentissage, où il prenait son temps. Il disait certainement à Jésus: vas-y, commence, recommence, continue. Et c'est très intéressant dans cette tension qu'on a, de voir à quel point dans notre relation à l'autre, on est tiraillé entre cette tentation du seducere, séduire, donc conduire l'autre à soi, pour qu'il écoute nos leçons de morale, pour qu'il nous obéisse, pour qu'il soit notre proie dans une relation de séduction. Et c'est cette tension entre le seducere et le educere, conduire hors d'eux. Et le chrétien est quelqu'un qui doit être fondamentalement, le mois dernier j'avais parlé de notre vocation d'être des entraîneurs, mais d'être aussi des éducateurs, c'est-à-dire que pour conduire les autres en dehors d'eux-mêmes, pour qu'ils puissent se déployer en dehors de l'enveloppe très limitante dans laquelle ils sont. Benoît XVI disait l'homme n'est pas fait pour le confort, il est fait pour la grandeur. Et de la même façon que toutes les satisfactions matérielles du monde ne vont pas combler son désir d'être aimé, le cœur de l'homme est tellement grand qu'il n'est pas rassasié par les biens de ce monde. Il est important de dire à la personne: tu vaux mieux, là tu es tombé, je ne suis pas là pour te juger, parce que toi-même tu es ton juge, tu vois bien que tu vaux mieux que ça, et déploie-toi, va au-delà. Et pour revenir à la question de l'effort et de l'ascèse, c'est intéressant aussi de revisiter tous les grands moments de joie et de bonheur que nous avons pu avoir dans notre vie. On peut y réfléchir là avec vous. Ça peut être des moments d'ordre sacramentel, un mariage, une confirmation, des moments scolaires ou sportifs. Eh bien, tous ces moments où vous êtes vraiment fier de vous-même. Je pense aussi au pèlerinage. Quand on arrive au but du pèlerinage, on est une l'année de Saint-Joseph, les pèlerins de Cotignac qui sous 40 degrés marche pendant 2-3 jours, transpirant, on est épuisé, on a les pieds remplis de cloques, et on arrive et on voit le sanctuaire de Cotignac, et à la fin on se met à genoux devant Saint-Joseph. Eh bien, tous ces moments de joie profonde, de joie intérieure, de joie un peu indicible, le sportif l'a bien verbalisé, le joueur qui arrive à passer entre différents adversaires au rugby pour aller aplatir dans l'embute, dans ce terrain qu'est la terre promise, eh bien c'est vraiment moment d'exaltation intérieure, où vous êtes profondément heureux et puis fier de vous. Eh bien, ce sont des moments qui interviennent souvent après des temps de privation, des temps de frustration, des temps de souffrance parfois, des temps d'absence, absence de l'être aimé, quand on s'est séparé et quand il y a la joie des retrouvailles. C'est aussi le fils prodigue. Eh bien, tous ces petits gestes d'ascèse, il faut toujours les mettre en perspective avec ces grandes retrouvailles avec soi-même, retrouvailles avec l'autre, et ces moments de jubilation où on se dit waouh, je suis une merveille, et on se dit j'ai bien fait d'avoir, dans ces petits moments de solitude, renoncer à telle tentation. J'ai réussi à ne pas faire ça. J'ai pu dire non à telle personne qui me sursollicitait. Il y a un grand entraîneur de football américain qui était une grande légende, qui s'appelait Vince Lombardi. Et Vince Lombardi était un catholique engagé, en particulier dans cette grande confrérie des chevaliers de Colomb, Knights of Columbus. Et Vince Lombardi disait la chose suivante: « Je suis persuadé que le plus beau moment de chaque homme et sa plus grande gloire est celui où il a tout donné de lui-même pour une bonne cause et qu'il est étendu, épuisé, mais victorieux sur le champ de bataille. » Tous les grands combattants ont pu le vivre à travers sur le pré d'un match de football ou bien dans le cadre d'un processus universitaire ou même à la fin de notre vie. Vous voyez, il y a toujours ce moment où on a combattu et on sait qu'il y a le dernier souffle, et épuisé mais victorieux sur le champ de bataille. Et c'est là que l'expression « terre promise » prend tout son sens. Tous les efforts, ils sont ordonnés à quelque chose de plus puissant. C'est de nous vider de nos petites idoles pour laisser beaucoup plus de place au Seigneur dans notre vie. C'est ça notre plus grande gloire, c'est de nous laisser remplir par le Seigneur. Nous sommes engagés sur le terrain des compétitions de nos vies et on crie vers lui pour nous dire, dans le silence de la prière et puis dans l'adversité de tous nos petits matchs, de tous nos petits combats, on crie vers le Seigneur pour qu'il dise: donne-moi ta force, Seigneur, donne-moi ta ferveur, aurait dit le cardinal Newman, donne-moi la ferveur, car en demandant la ferveur, je demande tout. Et c'est dans ces moments où on ordonne un peu toute notre histoire sainte, notre histoire douloureuse, pour se dire: Seigneur, je veux juste être un témoin de ta résurrection, je veux juste essayer d'être un consolateur auprès des gens qui sont consolés, essayer d'apporter un peu de joie auprès des gens qui sont dans la tristesse pendant cette période de Covid, de rétractation, d'angoisse, essayer d'être un petit athlète de la joie, d'être un champion de la bienveillance, pour que les gens qui m'ont rencontré repartent un peu meilleurs, un peu plus forts. Et ça, Seigneur, je te l'offre. C'est pas ma petite gloire, c'est pas mon orgueil, parce que je suis rien sans toi. Et c'est comme ça que le monde sera transformé, par une vraie ascèse qui n'est pas une ascèse volontariste. Et c'est des micro-sacrifices qui sont toujours ordonnés et faits avec joie, avec même une forme d'abondance, pour se remplir de la joie du Seigneur. Et comme je le disais tout à l'heure, ces grands bonheurs intérieurs, souvent indicibles, ils viennent après les périodes où on s'est un peu oublié. Donc c'est ce que je vous souhaite tous, chers amis à 7 du Seigneur, chers champions de la joie, chers animateurs du combat spirituel, en pensant toujours que le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Jean Le Cam récemment, à l'issue de son Vendée Globe qui a été titanesque, a dit « celui qui parle trop, finalement, on se moque de lui, celui qui se tait, il y a un moment où on va l'admirer ». Et c'est ce que je vous souhaite le plus, c'est d'agir avec bienveillance, avec délicatesse, poser ces gestes justes de tendresse envers vous-même et envers les autres. Et à très bientôt.
Merci à vous. Beaucoup Arnaud Boutet, on va très très bientôt. Merci,
au revoir.
Au revoir.